jour, un candidat municipal, Le Mans 2026, avec Jean-Yves Breteau.
Bonjour, dimanche 15 mars, les électrices et les électeurs du Mans auront à choisir leur maire pour un mandat de 6 ans parmi cette liste présente au premier tour des municipales. Les 97 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. La rédaction de Radio Alpa reçoit tour à tour cette semaine une tête de liste dans chaque émission spéciale, un jour un candidat. Nous recevons aujourd'hui Maëlle Briand, tête de liste Le Mans, une ville humaine, soutenue par la France Insoumise. Bonjour Maëlle Briand.
Bonjour Jean-Yves, merci de votre invitation.
Vous avez 35 ans, vous êtes coordinateur départemental de la France Insoumise, directeur de cabinet de la députée sartoise Élise Leboucher, ancien directeur du Secours Populaire de la Sarthe. Vous menez cette liste avec Hélène Debost, 51 ans, conseillère départementale de la Sarthe, ancienne adjointe au Mans à la jeunesse, qui vient de rejoindre LFI après avoir quitté Europe Écologie Les Verts en 2020. Ce n'est pas votre première participation à une élection locale, puisque en 2020, vous figuriez en 4e position de la liste soutenue par les Insoumis et les communistes. Pourquoi, Maëlle Briand, avez-vous décidé d'être cette fois-ci tête de liste à ces municipales ?
Alors, merci pour cette présentation qui est copieuse mais complète. Nous partons pour un mandat de 7 ans, cher Jean-Yves.
7 ans.
7 ans. En fin de compte, si vous voulez, nous, l'option d'une candidature d'Union Populaire et de la France Insoumise a été pendant un an en germinaison, mais ce n'était pas notre option privilégiée parce que, pour ne trahir aucun secret, nous tentions de faire émerger une candidature commune de la gauche de rupture pour pouvoir faire face au leufolisme municipal. Mais force est de constater que Marietta Caramanli, qui alors jusqu'ici était élue sous les couleurs du Nouveau Front Populaire, s'est montrée déloyale vis-à-vis du programme sur lequel elle a été élue, en accompagnant le budget macroniste, un budget des finances de l'État qui vont avoir un impact délétère pour les habitants, pour les Mancelles et les Manceaux. C'est pourquoi nous, par cohérence, par souci de clarté, y compris pour le débat public, nous avons fait le choix de porter le programme du nouveau Front Populaire, adapté à la situation locale, un programme résolument social et écologique qui permette aux habitants et aux habitantes, je le crois, de mieux vivre dans cette ville.
En quoi ce vote qui était sur le plan national n'était plus compatible avec un programme commun qui porte essentiellement sur des propositions locales ?
Oui, mais il faut être aussi pédagogique. Il faut que chacun comprenne, en tout cas les auditeurs qui nous écoutent, que le budget de l'État, c'est ce qui règle l'ensemble des budgets de services publics essentiels, y compris pour les habitants. C'est-à-dire que lorsque vous accompagnez les macronistes dans la mise en place d'un budget sur lequel il y a 3,6 milliards de coupes dans la santé et dans l'hôpital, où il y a 2,2 milliards de coupes dans les budgets des collectivités locales, quand il y a 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés, dont 23 dans le département et probablement une dizaine, la direction académique nous l'indiquera, mais probablement une dizaine ici dans cette ville. Je crois qu'il faut être humble, prendre acte de ces décisions politiques et constater que nous ne sommes pas la bonne personne pour pouvoir rassembler autour d'un projet de gauche alternatif. Voilà pourquoi est-ce que la possibilité que Marietta Caramanli, députée du groupe socialiste et apparentée, il faut le dire, incarne cette union, n'était plus possible pour nous.
Maëlle Briand, vous êtes la seule liste conduite en binôme à deux têtes avec Hélène Debost. Pourquoi ce choix ?
Parce que pour nous, si vous voulez, ça rentre dans un axe plus global du souci démocratique que l'on porte à la vie locale. Donc, un des arguments pour pouvoir faire vivre la démocratie locale, c'est bien sûr la décorrélation des exécutifs. C'est un bien grand mot pour dire que quelqu'un fait campagne pour la mairie, quelqu'un d'autre fait campagne pour la présidence de la métropole. On arrête avec les présimaires. On arrête avec les figures tutélaires qui recouvrent l'ensemble de la métropole et qui décident seules. Ça, on arrête. Donc, Hélène Debost, qui effectivement vient des écologistes, a un bagage intellectuel qui la prédispose à pouvoir conduire les affaires de la métropole, notamment sur l'eau et sur la mobilité, les grands enjeux écologistes, est naturellement fléchée sur ce poste.
Votre liste s'intitule « Le Mans, une ville humaine ». Pourquoi ce titre ?
Mais parce que, de fait, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est Le Mans à l'échelle humaine, qui puisse aussi agir avec tous ses organes, qui puisse écouter la population, qui sache aussi entendre, qui tend la main résolument aux Manceaux et aux Mancelles. On est dans une ville où la fragilité sociale est particulièrement marquée, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, de fait, c'est une ville qui agit aussi en conséquences pour pouvoir faciliter le développement et l'épanouissement humain. D'où nos priorités, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler.
Certainement. Toutes les listes sont actuellement à la rencontre des Mancelles et des Manceaux pour promouvoir leur programme, séduire pour être le prochain maire du Mans. Comment se passe, vous, votre campagne pour ce premier tour ?
Alors, notre campagne se passe bien.
C'est-à-dire ?
Elle se passe relativement bien. Il y a des endroits qui sont toujours assez compliqués. On sait que la France insoumise aujourd'hui a tendance à cristalliser, voire à cliver.
On va
dans
y venir.
L'opinion publique, très bien. Mais nous, ce que l'on constate, c'est que lorsque l'on est en action de porte à porte, attendez, c'est plus de 3500 portes qui ont été toquées par les camarades, les militants et les personnes qui nous ont rejoints durant cette campagne. Lorsque l'on va au devant des foyers, généralement, ils nous accueillent très bien. Et ils accueillent nos mesures programmatiques, notre priorité pour l'école, le bloc de gratuité que l'on défend avec enthousiasme. Donc c'est une campagne qui est assez enthousiasmante.
Maëlle Briand, ça ne vous a pas échappé, la France Insoumise est dans le viseur de partis politiques et de médias nationaux depuis quelques mois. Ces dernières semaines, il a été reproché à la France Insoumise des postures suite à la mort d'un jeune identitaire tabassé par des antifascistes à Lyon. Jean-Luc Mélenchon est par ailleurs de nouveau accusé d'antisémitisme après avoir ironisé lors de son meeting du 26 février à Lyon sur la bonne façon de prononcer le patronyme du criminel sexuel Jeffrey Epstein ou Epstein. Est-ce que cette actualité affecte votre campagne sur le terrain ?
Bien entendu, le nier, ce serait mentir. Ça a un impact. Mais un impact que je constate qui est double. D'une part, effectivement, la cabale qui a fait suite à l'assassinat de Quentin Derenck, qui est un événement absolument dramatique et tout aussi horrible, le fait de nous en faire porter le chapeau a eu un impact délétère. Je crois que ça a renforcé effectivement une frange de la population active, notamment à l'extrême droite. Moi, j'ai personnellement reçu des menaces de mort, évidemment. Bon, Hélène Debost de même. D'ailleurs, elle a été cataloguée par le magazine d'extrême droite Frontières comme étant une des brebis galeuses de la France insoumise. Ça encourage une campagne absolument délétère à notre encontre. Et je trouve ça particulièrement dommageable parce que nous sommes dans un monde inversé où on tente de nous faire passer pour le danger rouge-brun, tout pendant que l'on dépeint l'extrême droite de Jordan Bardella, qui s'acoquine avec les antisémites de tous bords, comme étant un parti républicain, ce qu'il n'est pas. Sur Epstein, je crois que ça a été très mal compris, ce que Jean-Luc Mélenchon a tenté de faire. J'ai trouvé ça personnellement maladroit, voilà, jouer sur les...
Donc vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'on est en pleine campagne municipale quand même.
Oui, oui, mais si vous voulez, moi je suis... Je ne suis pas à distribuer les bons ou les mauvais points. Si on regarde la scène publique en général, je ne trouve pas qu'elle soit extrêmement respirable. Dans tout état de cause, ça a un impact, mais je crois que ça a un impact qui, d'un côté, radicalise ceux qui nous sont extrêmement opposés, mais par contre, je constate que ça fait venir vers nous aussi un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que l'on peut se retrouver à ce point sur le grill.
Vous avez même le soutien de Dominique de Villepin. C'est étonnant, oui. Un homme oui. De droite qui soutient effectivement ce que la France Insoumise subit actuellement de toutes parts.
Non, mais Dominique de Villepin est quelqu'un qui non seulement est de droite, qui non seulement est républicain, qui en plus de ça est un intellectuel, un homme lettré, qui connaît notre histoire, qui connaît notre histoire politique, qui connaît la trajectoire historique que notre nation a connue de 1789 à nos jours. Il fait autorité sur la scène internationale. Moi, c'est avec ces personnalités de droite que j'ai envie d'avoir un débat de fond. Je ne partage pas les idées de Dominique de Villepin sur les questions d'ordre libéral ou économique, ça c'est très clair. Mais au moins, il élève le niveau.
Le Conseil d'État a confirmé vendredi dernier que LFI sera bien classé à l'extrême gauche pour ses municipales, contrairement aux législatives 2024 pour lesquelles la France Insoumise avait déjà déposé un recours contre cette étiquette politique et avait obtenu gain de cause. Est-ce que cette décision du Conseil d'État de vendredi change quelque chose pour votre campagne ?
De toute façon, ça ne change rien. Ce n'est pas l'étiquette qui va déterminer, enfin l'étiquette qui nous est adjointe par le Conseil d'État suite au ministère de l'Intérieur qui ne sont pas, vous l'imaginez bien, mes boussoles politiques puisque je plaide pour la 6e République personnellement. Donc bon, mais en soi, ça ne change absolument rien. Enfin, j'ai envie de dire, nos tracts sont les mêmes, nos propositions sont les mêmes et moi je sais que je n'ai je n'ai jamais appartenu à un mouvement d'extrême gauche. J'ai énormément de respect pour les candidats d'extrême gauche dans cette campagne, que ce soit Benjamin Sainty ou que ce soit Arnaud Rabette. Ils font la campagne qu'ils souhaitent, mais nous n'avons pas les mêmes finalités politiques. Moi, je me présente pour gagner cette mairie, pas pour critiquer l'aspect gestionnaire de l'austérité ou alors plaider pour une révolution totale. Moi, je veux la révolution citoyenne par les urnes. Et par ailleurs, les propositions que je fais sont des propositions de socialisation des communs. C'est ni plus ni moins la définition historique du socialisme marxiste. Alors oui, moi j'assume d'être dans cette campagne le seul candidat socialiste.
On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a eu un échec d'une liste d'union des gauches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre liste est essentiellement constituée de militantes et de militants LFI et de citoyens et citoyennes de la société civile ?
Exactement, à peu près à 60%, 40%. On a 60% de personnes qui nous ont rejoints dans cette campagne sur cette liste. Pour citer quelques noms dans le haut de liste, on a Mathis Romé qui est un étudiant en chimie et qui est musicien, qui par ailleurs porte haut les questions LGBTQIA+. Aujourd'hui, on a un sujet avec les locaux d'Homogène qui ont été dégradés pour la troisième fois. Pour nous, c'est important de visibiliser aussi les personnes qui sont engagées pour défendre les droits de toutes et tous. Ça, dans le respect de la fluidité de genre. On a des personnes comme Patrice Silpa, qui n'est pas un militant insoumis, qui est l'ancien coordinateur jeunesse des quartiers sud, qui connaît très bien les quartiers des Glonières, des Sablons et de Bellevue, qui a fait le choix de nous rejoindre. On a Elodie Dessouza, qui est une commerçante restauratrice, qui, elle, s'engage aussi pour une cuisine bio, équitable, égale, et qui puisse aussi prévenir à l'intérieur de la restauration scolaire notamment.
On va en parler parce qu'on va venir à votre programme. Vous annoncez porter un programme de rupture pour améliorer le quotidien des Manceaux et des Mancelles. En quoi consiste globalement ce programme de rupture, globalement, radicalement de gauche et féministe, pour reprendre les termes de votre colistière Hélène Debost?
Alors, la rupture, elle s'opère de trois façons. Déjà, il y a, je crois, la nécessité de faire diverger l'histoire. Mais c'est vrai au local, c'est vrai au national. C'est ce pourquoi je plaide. Il y a une rupture démocratique et il y a une rupture en matière de socialisation des communs qui elle-même se décline. En matière de citoyenneté et de participation locale, il faut que les Manceaux et les Mancelles puissent avoir la parole le plus souvent possible. Ce n'est absolument pas le cas. On connaît les critiques qui sont faites à l'endroit de Stéphane Le Foll qui décide seul et de façon verticale. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la participation soit la plus horizontale. Donc on propose un référendum d'initiative citoyenne qui puisse permettre à 5000 Manceaux et Mancelles de pouvoir porter un sujet auprès du conseil municipal avec obligation d'étude par le conseil municipal et par les services de la ville, un référendum d'initiative citoyenne qui puisse faire l'objet d'un service public qui soit complètement autonome du pouvoir politique local pour donner toutes ses chances et toute son indépendance à ce que des sujets puissent survenir. On propose de renforcer les conseils de quartier en garantissant encore une fois leur autonomie et leur indépendance du point de vue du pouvoir politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Il suffit de regarder la liste de Monsieur Le Foll pour constater que les anciens présidents des conseils de quartier sont recyclés sur sa liste. Par ailleurs, on souhaite porter la présentation du budget municipal chaque année dans des espaces de participation citoyenne, avec un budget qui soit présenté aussi de façon genrée, sensible au genre. C'est-à-dire que l'on regarde les politiques publiques que l'on provisionne, que l'on prévisionne de mettre en place l'année suivante, et on regarde l'impact que ça a pour les hommes comme pour les femmes. Et on apporte les correctifs, y compris dans des débats citoyens.
Ça va être un peu lourd à organiser.
Mais la démocratie n'a jamais été quelque chose de simple.
Votre programme souhaite répondre aux plus pauvres avec un bloc de propositions autour de la gratuité. Parmi vos propositions, certaines concernent les transports en commun et la facture d'eau qui dépend, rappelons-le, de la métropole.
Oui, c'est la seconde rupture qui se décline sur un versant social et écologique. C'est la théorie de l'écologie populaire que l'on a mis dans ce débat public, c'est-à-dire conquérir de nouveaux communs, comme par exemple les transports collectifs, les transports en commun, la cette rame sera gratuite si nous gagnons le 15 mars prochain. Parce que les transports en commun sont une nécessité pour un certain nombre de travailleurs, pour un grand nombre d'étudiants, d'étudiantes et pour tout à chacun. Donc nous rendrons les transports en commun gratuits parce que cela aussi encourage la pratique des mobilités douces. Voilà comment est-ce qu'on fait la sociale écologie. La sociale écologie, nous la faisons aussi par la gratuité des 18 premiers mètres cubes d'eau, effectivement, avec une surtarification pour les mètres cubes d'eau excessifs, j'entends les mètres cubes d'eau qui dépassent les 50 mètres cubes par personne dans le foyer, qui eux feront l'objet d'une tarification vraiment plus progressive de façon à pouvoir équilibrer la mesure. Là aussi, la conquête de l'eau comme étant un commun, c'est quelque chose qui est en avance de phase, en avance dans son temps, mais qu'il faut que nous fassions dès maintenant. parce que ce sera un enjeu demain, on le sait.
Cette gratuité, c'est moins d'argent dans les caisses. Mm-hmm. Donc comment vous faites pour compenser ?
Alors, pour l'eau, je l'ai dit, il y aura 18 mètres cubes d'eau par personne dans les foyers mis à disposition, puis ensuite une tarification progressive jusqu'au 50e mètre cube d'eau, et ensuite une tarification vraiment plus progressive à partir du 51e mètre cube, de façon à pouvoir aussi pénaliser la consommation, et ça je l'assume, pénaliser la consommation dite de loisirs. Donc normalement, selon nos calculs, effectivement, c'est une mesure qui s'équilibre, en sachant que ça vaut pour les contrats des personnes physiques, pas pour les personnes morales, c'est-à-dire pas pour Radio Alpa ou pas pour la MJC Prévert, par exemple, qui continuera à payer le plafond à partir du premier mètre cube, soit les 1,34€ TTC. Sur les transports en commun, je n'ai pas encore arrêté de position ferme sur la façon dont nous pouvons financer. En tout état de cause, nous savons que la gratuité coûte 13,3 millions. À la métropole qui...
Ce n'est pas une bagatelle.
Ce n'est pas une bagatelle, mais c'est à mettre en perspective avec un budget annuel qui est de 750 millions quand même. Donc, ça représente un peu moins de 2% du budget. Mais on a plusieurs façons de pouvoir financer. Déjà, on peut relever le versement mobilité. On a différents taux de versement mobilité qui sont facturés du coup aux entreprises, aux grandes entreprises à partir de 11 salariés. On a différentes tranches de taux, donc il faut remettre ça à plat, entre les 0,75 sur le pôle métropolitain, le Mans-Sarthe, entre les 2% pour le Mans Métropole, mais pas vraiment pour certaines communes, etc. etc. Il y a énormément d'argent à récupérer de ce point de vue-là. Si on fait demain le taux de versement mobilité à 2,5% plutôt que 2%, la gratuité, elle est totalement financée.
Maël Briand, parmi les autres propositions de votre liste, certaines concernent l'école qui est de compétence communale. Oui. Quelles sont-elles, ces propositions pour l'école ?
Alors pour l'école maternelle et l'école primaire. Nous engagerons les travaux de rénovation thermique des écoles primaires dès le début du mandat, parce qu'on ne va pas assez vite. Regardez, à l'école Calmette, il a fait jusqu'à 39 degrés, voire 40 degrés dans certaines classes de maternelle, et on a vu par ailleurs qu'aux Sablonnières, on avait 13 degrés l'hiver. Les deux sont inacceptables. Donc la rénovation thermique du bâti public, en commençant par l'école primaire et maternelle, sera pour nous une priorité. Bien sûr, pour pouvoir faire face aussi aux épisodes de chaleur intense, on engagera un plan de végétalisation des cours, parce que la différence entre une cour végétalisée et une cour goudronnée comme il existe aujourd'hui, c'est à peu près 10 à 15 degrés dans l'air. Hein. Mmh. Et plus on est petit, plus c'est chaud. Donc ça, c'est une nécessité. Par ailleurs, ces nouveaux havres de fraîcheur que seront les cours d'école végétalisées seront ouverts à tous et toutes, en dehors des périodes de vacances, en dehors de périodes scolaires, pardon, pour pouvoir doter chaque quartier d'un espace de fraîcheur où se retrouver. Ça, c'est sur le versant, disons, écologique et aussi sur le cadre. Maintenant, sur le versant social, parce que nous voulons aussi l'école vraiment gratuite, nous proposons qu'une dotation gratuite de fourniture scolaire soit remise à chaque élève qui rentre dans une école de la ville. Par ailleurs, nous ferons en sorte que la restauration scolaire soit moins chère, qu'elle repose sur 7 tranches plutôt que 3 tranches de quotient familial, et que la première tranche soit 0 euros. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a les quartiers politiques de la ville les plus pauvres, voilà, les QPV les plus pauvres des Pays de Loire, et qu'on a des îlots scolaires qui sont les îlots scolaires les plus pauvres de métropole. Donc la restauration scolaire doit être accessible à toutes et tous.
Toujours dans votre programme, vous avez des propositions qui concernent les besoins en logement.
Oui.
Donc construction de 80 000 logements, c'est ça ?
Non, de 10 000, 80 000.
J'étais ambitieux.
Non, mais on a énormément d'ambition. Mais 10 000, c'est bien déjà. Moi, j'ai vu par exemple que Stéphane Le Foll proposait la construction de 6 000 logements, bon, alors que sur le dernier mandat, il en a construit 600. Bon, c'est 10 fois plus. C'est très bien comme mesure, mais bon, je ne crois pas qu'il l'appliquera, évidemment. Donc nous, ce que nous proposons, c'est bien sûr de construire 10 000 logements sur la métropole, soit les 10 000 logements qui nous manquent pour pouvoir abaisser la pression immobilière sur l'ensemble de la ville. Ça, c'est une nécessité. Mais par ailleurs, l'autre nécessité, c'est d'opérer la rénovation thermique et acoustique du bâti public déjà existant. Sur les 20 et quelques mille logements que compte Le Mans Métropole Habitat, sur l'habitat public évidemment. Donc l'engagement qui est le nôtre, c'est de construire 10 000 logements, mais que pour un logement construit, on en rénove deux. Comme ça, en l'espace d'un mandat, on aura réussi à percer la bulle immobilière, on aura réussi à doter la ville du bâti dont il a besoin, et on aura rénové le bâti public.
Dans le programme de toutes les listes pour ces municipales au Mans, il y a des propositions pour répondre aux besoins de ce que certains appellent l'insécurité, d'autres la sécurité, d'autres encore la tranquillité publique. Comment pouvez-vous rassurer sur cette attente les Mancelles et les Manceaux qui en font leur priorité parmi d'autres ?
Non, mais vous avez raison, effectivement, c'est une priorité. Moi, je ne le nie pas, mais par contre, le niveau de priorité, il faut réussir à le qualifier. On ne joue pas avec les peurs. Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai entendu M. Sasso, Mme de Vigneural pour le Rassemblement National et les Républicains nous laisser croire que Le Mans était un coupe-gorge. C'est faux, c'est faux. Les chiffres du préfet Jallet, qui ont été présentés encore récemment, démontrent que les atteintes aux biens et aux personnes ont tendance à baisser dans cette ville.
Il y a une baisse de l'insécurité au
Voilà, on peut s'en féliciter. Mais par ailleurs, nous revendiquons tout de même, et on ne le nie pas, que la tranquillité publique est un droit. Mais pour pouvoir faire vivre ce droit à la tranquillité publique, notre méthode c'est de revenir à la présence humaine, avec des équipes de médiation, de prévention, mais aussi d'animation sociale. Parce qu'on n'a jamais été autant vidéo protégé ou vidéo surveillé.
Ah, peut-être que c'est l'explication à certaines résolutions d'insécurité, d'intranquillité au Mans.
Ouais, mais ça les a déplacés surtout. Enfin, il suffit d'aller en discuter avec des personnes qui vivent sur l'axe Gambetta, parce que si vous voulez, les points chauds on les connaît tous, hein, y compris la police nationale, que j'accuse de ne pas faire son travail par ailleurs. Donc il y a une chose, c'est de réussir à tenir les contours de ce que doit être une police municipale, reconstruire le lien social et le lien de proximité à partir d'équipes de proximité, parce qu'à mesure qu'on a développé la vidéosurveillance, chacun l'aura noté, on a perdu des effectifs, y compris dans le service jeunesse, et ça franchement c'est absolument critiquable, parce qu'aujourd'hui nous avons une ville qui est presque aveugle à sa jeunesse. Je le sais, j'ai été suffisamment animateur jeunesse dans cette ville. Et éducateurs au quartier sud par ailleurs. Donc, nous, on revient à la présence humaine pour pouvoir rétablir le lien social, le lien de proximité, parce que avoir aussi une équipe de prévention et de médiation, ça permet de désamorcer des situations immédiatement, avant qu'elles ne s'enlisent et qu'elles ne s'enveniment, et qu'elles ne se transforment en insécurité.
Voilà, c'est finalement régler la question du besoin de tranquillité publique des Mansels et des Manceaux par plus de présence humaine.
Par la proximité. Par la présence humaine et la proximité. Mais attention, parce que de l'autre côté, il faut aussi que la police nationale joue le jeu. Il faut que le ministère de l'Intérieur joue le jeu. Nous avons demandé une brigade de sécurité des transports en commun. Enfin, je dis nous, Élise Leboucher, députée, a sollicité monsieur Retailleau et monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin s'était engagé à ce qu'une brigade de sécurité des transports en commun soit déployée avant que monsieur Retailleau nous la retire. Donc il faut arrêter aussi les discours de duplicité. Moi, j'accuse monsieur Retailleau d'avoir fait de l'obstruction à la sécurité des Manceaux. Il a empêché que les Manceaux soient plus en sécurité. Voilà ce que font les Républicains réellement quand ils ont les mains sur les manettes.
Voilà, puisqu'on parle des violences, on va quand même parler aussi des violences conjugales, des violences faites aux femmes. Ça fait aussi partie des propositions dans le programme, portées évidemment par Hélène Debosse, qui est une élue féministe avérée.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est l'autre aspect de l'insécurité, si on veut, ou en tout cas des atteintes aux biens et aux personnes. Ce que démontrent les chiffres, encore une fois, c'est qu'il y a une hausse tout de même des violences faites aux femmes. On a, à ce propos, tout un meeting dédié sur la question avec Mathilde Panot le 6 mars, vendredi, à partir de 19h, à la salle Henri Barbin, où Dominique Leloup et Hélène Debost, qui ont travaillé sur le versant féministe du programme, vont pouvoir faire des propositions pratiques aux Mancelles pour pouvoir les mettre en sécurité. Alors, évidemment, on propose l'arrêt minute le soir dans les transports en commun, de façon à ce que les femmes puissent être déposées là où elles le souhaitent. Nous proposons de revoir aussi tout ce qui est de l'ordre de l'éclairage public pour pouvoir garantir qu'on puisse aller et venir sur l'espace public de façon sécurisée.
Ça pourrait presque être étonnant, cette proposition-là. Vous avez une ancienne écologiste qui est avec vous en binôme. Bon, on se souvient que la nuisance lumineuse de l'éclairage de la ville, c'était pas forcément le dada des écologistes.
Oui, oui, mais il y a des types d'éclairage qui permettent justement de pouvoir suivre les personnes à détection, de façon à pouvoir illuminer un peu devant les personnes et en même temps les personnes, de façon à avoir un couloir lumineux par exemple, et on a tout un tas d'avancées technologiques, y compris sur les nuisances. Je pense par exemple à de l'éclairage LED, à de l'éclairage LED rouge. Enfin, ça s'étudie avec les services, et je fais tout à fait confiance aux services municipaux et métropolitains pour trouver les solutions adéquates. Sur la question de l'insécurité des femmes, bien sûr, nous plaidons pour qu'il y ait un centre d'hébergement supplémentaire dans cette ville, avec un accueil qui soit inconditionnel et qui soit le plus long possible pour pouvoir garantir justement à des femmes qui sont victimes de violences de pouvoir être à l'abri et de pouvoir avoir le temps de se retourner aussi, de se retourner dans leur situation personnelle.
Voilà, on parle des femmes, Maëlle Briand. Il y a d'autres propositions qui concernent les solidarités en faveur des personnes avec un handicap ou les personnes âgées.
Oui, tout à fait. Alors, sur les personnes âgées, nous, ce que l'on propose, c'est bien sûr de renforcer les EHPAD publics, avec l'ouverture notamment d'une troisième antenne, parce qu'on sait que la demande va s'accroître dans cette ville. Par ailleurs, on souhaite renforcer les équipes sans nécessairement avoir besoin de faire appel à des contractuels ou à un système qui est critiquable pour ceux qui le découvrent. Bien sûr, il s'agit du système Hublot qui permet de recruter au jour le jour des personnes pour pouvoir faire tampon. Ça, nous, on souhaite sortir de ces logiques hyper contractuelles et puis hyper violentes pour les personnels, tout en renforçant le nombre de places d'accueil. Mais en soi, sur les 10 000 logements dont je parlais, on va aussi réserver de la place à des expériences de type intergénérationnel, notamment à destination des étudiants et des personnes âgées, pour pouvoir avoir des centres intergénérationnels où puissent vivre différentes générations et cohabiter et aussi coexister. Sur la question du handicap, on a un certain nombre de propositions. Encore une fois, on les détaillera notamment le vendredi 6 mars, puisqu'il s'agit aussi de parler de la ville inclusive. Mais nous proposons d'augmenter le cadencement des transports en commun qui sont donc le CETRAM Access, qui sont à destination des personnes en situation de handicap à partir de 80% d'invalidité. Nous souhaitons aussi augmenter la flotte de véhicules CETRAM Access, passer de 12 véhicules, peut-être bientôt 15, à 30 véhicules dès la première année du mandat, de façon à pouvoir aussi augmenter le cadencement. Puisqu'aujourd'hui, ces tram access s'arrêtent à 19h ou 19h30, selon les horaires, ce qui empêche les personnes en situation de handicap d'avoir accès aux loisirs, aux restaurants, à la culture, etc. etc. Donc on souhaite rehausser le cadencement à 22h30. Mais c'est loin d'être tout, mais je vois que je suis pressé par le temps.
Oui, Maël Brion, on arrive au terme de cette émission. Pourquoi voter pour votre liste dès le premier tour ?
Bah, je crois qu'on a eu un échange de qualité qui démontre combien nous sommes prêts à pouvoir prendre la ville et à pouvoir conduire une ville résolument sociale et écologique. Une ville dans laquelle toutes et tous puissent se retrouver avec la priorité faite à l'avenir, que ce soit en matière de bifurcation écologique, que ce soit en matière de préparation des esprits, notamment à l'école. Donc je sais que chaque mancelle et chaque manceau est attaché à cette ville. Je sais par ailleurs qu'un certain nombre sont comme moi, jeunes parents, ou alors parents, ou alors grands-parents. On souhaite que cette ville soit humaine, vivable, durablement. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire le choix de la ville humaine.
Merci Maël Brion. On rappelle que vous êtes tête de liste Le Mans, une ville humaine, soutenue par la France Insoumise en binôme avec Hélène Debosse. Sont aussi candidats pour ces municipales Victoria de Vigneral, tête de liste du Rassemblement National, Marietta Caramondi, tête de liste L'Union pour Le Mans, Stéphane Le Foll, maire sortant socialiste, tête de liste Le Mans nous rassemble, Arnaud Rabet, tête de liste Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs, Benjamin Sainty, tête de liste Révolution Permanente, Olivier Sasso, tête de liste d'Union de la droite et du centre, Le Mans Nouveau Cap. Nous recevrons demain en direct à 12h30. À noter, jeudi 12 mars à midi, Radio Alpa organise avec la collaboration des rédactions de LMTV Sarthe, le Maine Libre et le Ouest France, le grand débat du premier tour entre les 7 listes. Un débat public qui aura lieu au cinéma Le Pâté. Pour choisir votre maire et pour que vive la démocratie, les dimanches 15 et 22 mars, votez.
Les municipales Le Mans 2026 à suivre sur Radio Alpa.